Le service Orange Monnaie, réception de transfert d'argent depuis la France, vous propose appel sur l'actualité. Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Appelez-nous, exprimez-vous, l'antenne vous appartient. Rejoignez-nous ce matin pour commenter le tirage au sort de la Coupe d'Afrique des Nations 2019, puisqu'on connaît depuis vendredi maintenant la composition des 6 groupes, des groupes plutôt équilibrés, homogènes. Ce sera la première CAN avec 24 équipes, avec de beaux duels tout de même, de beaux duels en perspective lors de la phase de poule. Je pense notamment à Maroc-Côte d'Ivoire, puisque les éléphants voudront évidemment prendre leur revanche après avoir été éliminé par les Lions de l'Atlas de la CAN 2017. Je pense également à ce match choc. Incontestablement, il y aura des frissons devant Sénégal-Algérie, puisque les Lions de la Teranga n'ont pas battu les Fennecs en compétition officielle depuis 2008. On suivra évidemment de près Cameroun-Ghana, deux anciens vainqueurs d'une Coupe d'Afrique des Nations. En tout cas, ce matin, on attend évidemment vos pronostics. 33 9 693 693 70. Vous continuez évidemment à poster vos analyses, vos commentaires sur la page Facebook de l'émission. J'en lirai quelques-unes évidemment tout à l'heure pour alimenter le débat. Mais d'abord, ce sont vos questions sur l'actualité, vos questions sur les sujets qui vous interpellent, et nous allons revenir sur l'incendie qui a ravagé une partie de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Bamoutaga, bonjour.
Bonjour Juan.
Merci de nous appeler d'Abidjan, en Côte d'Ivoire. Nous vous écoutons.
Oui, vous serez les bienvenus ici la semaine prochaine, j'espère.
Ah, vous êtes bien informé, effectivement, la semaine prochaine. Nous serons à Abidjan pour des enregistrements en public. On sera à l'INGS à Marcory. Et on vous attend évidemment très nombreux. Caroline Paré sera également du voyage, tout comme Claude Issiard. Je vous en dirai plus, évidemment, dans le courant de l'émission. On vous écoute. Voilà. Revenons donc à cet incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris.
Tout à fait. Peut-on supposer que l'incendie est lié aux travaux de rénovation de la cathédrale?
Ah, c'est en tout cas la piste qui a immédiatement été privilégiée par les pompiers. Stéphane Geneste, bonjour.
Bonjour Juan, bonjour Bamoutaga.
Journaliste au service France de RFI, c'est vrai que l'origine du feu est encore inconnue, mais elle pourrait être liée effectivement aux travaux de rénovation qui étaient en cours sur la cathédrale.
On ne connaît vraiment pas les causes pour l'instant officielles de l'incendie. Ce qu'on sait, c'est que l'incendie a commencé lundi aux alentours de 18h50, et selon nos confrères du Parisien ce matin, le feu aurait pris à la base de la flèche de la cathédrale et qu'un bug informatique aurait perturbé la localisation du début du sinistre. Effectivement, Bamoutaga, vous le disiez, il y a des travaux de rénovation en cours à la cathédrale. Le chantier avait lieu à l'arrière de la cathédrale, autour de la flèche, donc là où apparemment le début de l'incendie aurait eu lieu. L'incendie aurait d'ailleurs commencé dans les combles et la propagation ensuite a été très rapide. Une enquête a été ouverte pour destruction involontaire par incendie par le parquet de Paris. La piste accidentelle est privilégié. Le procureur de la République de Paris l'a dit, rien ne va dans le sens d'un acte volontaire. Donc voilà, des auditions d'ouvriers et d'employés des sociétés de rénovation qui étaient présents sur le chantier ont eu lieu hier, lundi soir et puis encore aujourd'hui.
Une trentaine de personnes auditionnées. Il y a quand même 50 enquêteurs mobilisés.
Oui. C'est considérable. Ouais. C'est considérable. Tout cela pour déceler d'éventuelles responsabilités, d'éventuels manquements ou négligences. Mais en tout cas, il est pas simple de trouver des preuves matérielles parce que tout a brûlé. Donc des drones vont sûrement être utilisés par les enquêteurs.
Ouais. Enquête qui s'annonce donc compliquée et longue. En tout cas, les experts de la police scientifique sont sur place. Ils vont évidemment fouiller l'ensemble des débris. Vous avez une autre question, Bamoutaga?
Oui, une deuxième question concernant les pompiers. Pourquoi ils ont eu tant de mal, tant de difficultés à éteindre l'incendie? Et pourquoi ne pas avoir utilisé les Canadair?
Ah, les Canadair, référence évidemment à la proposition du président Donald Trump qui dans un tweet disait utiliser des bombardiers d'eau pour stopper les flammes. Bon, certes, ça peut être pertinent en pleine forêt, mais pas forcément au cœur de Paris. D'abord sur le travail des pompiers, effectivement, 400 pompiers mobilisés, ça a été très long pour éteindre ce feu.
Plusieurs heures. Pourquoi c'était si difficile d'éteindre le feu de la cathédrale Notre-Dame de Paris? Déjà, première raison, la taille de la cathédrale. Elle est gigantesque, 100 mètres de long. entre 13 et 40 mètres au niveau de la nef et du transept, et la hauteur 45 mètres pour le toit, 90 mètres pour la flèche, d'où la difficulté pour les pompiers puisque leurs nacelles, leurs grandes échelles ne peuvent aller qu'à 30-35 mètres de haut. Oui. Donc il y a un différentiel évident, donc compliqué pour les pompiers d'atteindre la toiture, d'autant que l'endroit est difficile d'accès. Autre raison, c'est que Notre-Dame de Paris, c'est un peu comme une boîte d'allumettes géante. La charpente de la cathédrale est composée de chênes, de 1300 poutres en chêne. Ça s'appelle, on appelle ça la forêt.
La forêt.
Donc c'est à peu près 20 hectares de forêt. C'est gigantesque. La charpente est donc ancienne. Elle date du 11e, 12e siècle. On peut retrouver du poussière de bois, un peu de décomposition. Donc une flamèche ou une soudure, et là, le feu part. Autre difficulté, c'est le vent et la visibilité qui était limitée vu que c'était en soirée.
Ouais. Concernant les canadaires, pourquoi ne pas les avoir utilisés comme le suggérait Donald Trump?
Bah en fait, utiliser les canadaires sur Notre-Dame de Paris, c'est un peu comme jouer au bowling avec la cathédrale. Tout s'effondrerait au final. Ouais. Un canadaire, c'est 6000 litres d'eau. Rendez-vous compte, c'est l'équivalent d'un bloc de béton de 6 tonnes projeté à 250 km/h. Donc c'est impossible, irréalisable, voire même complètement contre-productif. Il aurait fallu évacuer la totalité du site, donc les pompiers les évacuer, donc laisser le feu envahir la cathédrale Notre-Dame de Paris, et puis avec l'impact de l'eau sur la cathédrale, des blocs de pierre auraient été projetés, donc ça aurait fait provoquer l'effondrement de la nef et des arcs-boutants. Vous savez, les arcs-boutants, c'est les éléments qui soutiennent la cathédrale sur le côté, ça aurait été jugé trop dangereux.
Donc un danger pour la structure, des risques de dommages collatéraux, et puis évidemment où recharger les canadaires?
C'est la grande question, compliquée, avec la Seine à côté qui coule sur le long de l'île de la Cité. Il y a des ponts pas assez larges, et puis en banlieue parisienne, les étendues d'eau sont trop petites.
Bamoutaga, a-t-on répondu à vos questions?
Oui, vous me permettrez de rendre hommage aux pompiers.
Oui.
Un vibrant hommage aux pompiers qui ont courageusement battu pour arriver à bout des flammes.
Oui.
Et ça n'arrive pas souvent de passer sur RFI. Je voulais rendre hommage aussi aux correspondants des presses et un hommage particulier à ceux qui sont sur les lignes de front.
Merci Bamoutaga de tous ces messages et j'espère avoir le plaisir de vous rencontrer la semaine prochaine à l'INGS, mercredi 24, jeudi 25 avril, pour des émissions en direct de l'après-midi. On vous en dira plus évidemment un peu plus tard dans la semaine. Merci beaucoup Stéphane Genest.
Merci à vous.
D'être venu dans ce studio 10h18 déjà à Paris. D'autres questions, on va s'intéresser à la production du coton au Burkina Faso. Coup dur pour les cotonculteurs burkinabés. Almami, bonjour.
Oui, bonjour Juan. Merci. Bonjour à tous les auditeurs de la Radio Mondiale.
Merci de nous écouter à Waïgouya, dans la région du nord du Burkina Faso. Nous vous écoutons.
Exactement. Bon, le Burkina Faso est un important pays producteur de coton. Mmh. Pourtant, il se trouve à la 4e place des producteurs de coton en Afrique. Quelles sont les causes de baisse de la production? Le gouvernement burkinabé va-t-il mettre en place des aides à destination des cultivateurs pour compenser la baisse de la production?
Ouais. C'est vrai que déjà l'année dernière, le Burkina Faso avait perdu sa première place de producteur de coton en Afrique au profit du Mali. Et désormais, eh bien, le Burkina est devancé par le Mali, toujours, le Bénin et la Côte d'Ivoire. Bonjour Yaya Boudani.
Bonjour Juan, bonjour Almani.
Correspondant de RFI à Ouagadougou, les producteurs burkinabés visaient 800 000 tonnes de coton graines. La production 2018-2019 s'établit finalement à 436 000 tonnes. Comment peut-on expliquer une telle baisse de la production?
Alors, plusieurs régions expliquent cette baisse de la production cotonnière au Burkina Faso. D'abord, il y a les changements climatiques. La saison des pluies a mis du temps à s'installer, ce qui a engendré des poches de sécheresse dans plusieurs régions. Alors, lorsque la saison s'est installée, il y a eu de fortes pluviométries entraînant des inondations dans certains champs. Alors, cette saison de pluie a été plus longue que les années précédentes. Conséquence, les producteurs ont eu du mal à protéger leurs champs par un traitement efficace contre les parasites. Quand les pluies sont fortes et récurrentes, l'efficacité des pesticides devient très faible. Mmh. Alors, le Burkina Faso est passé de la culture du coton conventionnel, ce qui exige l'utilisation régulière de pesticides. Et puis, les pluies ont fait tomber aussi les boutons floraux, c'est-à-dire les bourgeons et les capsules de coton. Et puis, il y a eu aussi ce mouvement de boycott observé par une partie des producteurs dans certaines régions. Alors, ce sont près de 200 000 hectares qui n'ont pas été cultivés suite à ce mouvement d'humeur des producteurs de la province du Sénédougou et qui exigeaient d'abord l'apurement de la dette liée aux intrants fournis par la principale société cotonnière du pays. Donc, ce sont là quelques raisons qui expliquent cette baisse de 29% de la production par rapport à la précédente campagne.
Une baisse donc de 29%. Est-ce que le gouvernement burkinabé a prévu d'aider justement les cotonculteurs?
Alors, face à la situation, il y a eu un atelier entre toutes les parties qui interviennent dans la filière coton et le gouvernement. Alors, l'association interprofessionnelle des cotonculteurs du Burkina a pris un certain nombre de mesures avec le soutien, évidemment, du gouvernement burkinabé qui apporte une subvention à la production du coton. Alors, pour la prochaine campagne, il faut le souligner, il y aura une réduction de 7% du prix de cession des intrants aux producteurs. Du coup, le sac d'engrais va passer de 15 000 francs CFA à 14 000 francs grâce à une subvention d'environ 13 milliards de francs CFA du gouvernement. Et puis le prix d'achat plancher du coton graine aussi connaîtra une hausse de 15 francs CFA. Selon les sociétés cotonnières, ces mesures constituent vraiment des conditions économiques favorables pour une meilleure mobilisation des producteurs de coton pour la campagne 2019-2020.
Et on l'espère évidemment, la filière qui se mobilise, qui souhaite évidemment que le Burkina Faso retrouve sa place de leader en matière de production de coton en Afrique. Almami, on a répondu à vos questions?
Oui, on a répondu, merci beaucoup à Yaya Boudani.
Correspondant de RFI à Ouagadougou, merci Yaya. D'ailleurs, vous qui nous écoutez au Burkina Faso, vous êtes probablement producteur de coton, vous avez envie de témoigner, profitez-en vendredi dans la Libre Antenne, 33 9 693 693 70. Bonjour Oumar.
Bonjour Juan.
Vous nous appelez de Boké, dans l'ouest de la Guinée, et vous avez des questions sur la Cour pénale internationale.
Évidemment Juan.
Eh bien,
en Afghanistan, la semaine dernière, la CPI a décidé de renoncer à une enquête qui vise les États-Unis sur d'éventuels crimes commis en Afghanistan.
Oui.
Alors, je veux savoir quelles sont les raisons qui ont poussé la CPI de renoncer à cette enquête.
Alors, vous avez été nombreux, Oumar, justement, à vous poser la même question, nombreux à ne pas comprendre cette décision de la Cour pénale internationale. Karine Bonneau, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous, responsable justice internationale à la Fédération internationale des Ligues des droits de l'homme. Rappelons que la procureure de la CPI, Fatou Bensouda, avait demandé au juge l'autorisation d'ouvrir une enquête concernant d'éventuels crimes commis par les forces américaines et la CIA en Afghanistan. Seulement voilà, les juges ont dit qu'il n'y aura pas d'enquête.
Effectivement, c'est une décision assez épouvantable qu'ont rendu les trois juges de la chambre préliminaire de la CPI, à laquelle honnêtement personne ne s'attendait, puisqu'en fait ils reprennent des arguments politiques et opérationnels et pas du tout juridiques. Alors il faut noter que quand même, et comme la procureure de la Cour, les juges reconnaissent qu'il y a des crimes qui ont été commis en Afghanistan de la compétence de la Cour et que la Cour aurait compétence pour enquêter sur ces crimes. Mais elle va avancer trois arguments principaux pour décider de ne pas autoriser la procureure qui le demandait depuis un an et demi à enquêter sur les crimes en Afghanistan. Et ces arguments, en fait, ont trait d'abord à la situation qui très volatile et complexe en Afghanistan, qui rendrait la coopération des États, et là elle vise évidemment, sans la citer, la coopération des États-Unis très difficile, et puis aussi le fait que la Cour manque de ressources et qu'il est très difficile de préserver des éléments de preuve sur des crimes commis il y a longtemps. Donc ce sont les arguments qui, on le voit, permettent aujourd'hui à la Chambre de arguer d'une notion qui existe dans le statut, celle d'intérêt de la justice, et donc ça ne serait pas... Les intérêts de la justice n'iraient pas dans le sens d'une ouverture d'une enquête.
Mais ça veut dire quoi, Karine Bonneau, dans l'intérêt de la justice? Que les États-Unis ne coopèrent pas avec la Cour pénale internationale, ce n'est pas une surprise. Ils ne reconnaissent pas cette institution judiciaire. Mais qu'est-ce qu'on peut comprendre par dans l'intérêt de la justice?
Mais effectivement, c'est un concept qui est très flou, qui existe dans le statut, qui n'a jamais été utilisé de cette manière-là. L'intérêt de la justice, ça peut être, par exemple, l'intérêt des victimes. Au contraire, ça peut être aussi le fait de préserver des négociations de paix qui seraient en cours. Mais en aucun cas, il s'agit d'argumenter en principe sur des raisons qui, en fait, sont celles qui empêchent une justice nationale d'enquêter. Or, la Cour, elle a été créée pour, justement, pouvoir surmonter ces défis opérationnels de ressources, de difficultés de rassembler des éléments de preuve. Enfin, c'est quelque chose de très courant lorsqu'il s'agit de juger des crimes internationaux. Et là, on a l'impression que la Cour le découvre. Non, oui. En fait, là, les juges ont vraiment utilisé cet argument à des fins uniquement politiques pour ne pas ouvrir une enquête et ne pas ainsi aller contre des attaques très fortes de l'administration Trump. Enfin, les juges ont très clairement cédé aux pressions américaines sur ce point-là. Et on peut espérer que la procureure va faire appel, puisque tous les arguments sont là en droit pour faire appel de cette décision.
On suivra évidemment ce dossier. Merci Karine Bonneau d'avoir pris quelques minutes pour répondre à Oumar, qui nous appelait donc de l'ouest de la Guinée, sur les bords de la rivière Nunes. Je me fais le porte-parole de Moussa. Moussa qui nous appelait de Kemena. Kemena, ça se trouve où, si on peut me dire, dans mon casque? Sierra Leone, voilà, merci. Kenna qui a des questions sur la situation en Libye. Il nous dit, mais quels sont les arguments dont dispose le président égyptien Al-Sisi et la communauté internationale pour convaincre le maréchal Haftar de renoncer à son offensive sur Tripoli et de participer à des négociations? Jalal Archaoui, bonjour.
Bonjour.
Chercheur à l'Institut néerlandais des relations internationales Klingendaal, spécialiste de la Libye. Concrètement, est-ce que la communauté internationale a aujourd'hui des arguments pour convaincre le maréchal Haftar de renoncer à cette initiative, à cette opération sur Tripoli?
Avant de se poser cette question, il est fondamental de se poser une question qui est différente. C'est est-ce que la communauté internationale a le désir, a l'envie de ralentir l'escalade de violence qui se manifeste dans la Tripolitaine depuis le début du mois. Votre auditeur a posé la question par rapport à l'Égypte, par exemple. Que peut faire l'Égypte pour calmer le jeu? Il y a plusieurs choses très frappantes qu'il faut commencer par souligner. D'abord, l'Égypte, je comprends que votre auditeur ait pensé à l'Égypte parce que c'est un pays de 100 millions d'habitants, c'est le pays le plus influent dans l'univers arabe, c'est le voisin immédiat oriental de la Libye qui n'a que 6 millions d'habitants. Donc intuitivement, on aurait la tendance à penser qu'effectivement c'est à l'Égypte de jouer ce rôle.
D'autant que le maréchal Haftar était dimanche au Caire, aux côtés du président Al-Sisi. C'est pour ça que notre auditeur, en apprenant cette information, nous a parlé de l'Égypte.
Oui, oui, et évidemment, le spectacle qui a été déployé ces derniers jours avec cette visite consiste à justement maintenir ce vieux cliché, comme quoi l'Égypte est importante, etc. Mais dans la réalité, pour des raisons économiques, pour des raisons géopolitiques, à l'échelle régionale, à l'échelle mondiale, et surtout au niveau de cette puissance accrue des pays du Golfe, il faut se souvenir que l'Égypte est complètement soumise aux desiderata des Émirats unis d'abord, et ensuite, immédiatement après, de l'Arabie saoudite. Et ces deux États, qui sont extrêmement proches de la France, par exemple, n'ont aucun désir de calmer le jeu. En réalité, ils sont en train de jeter de l'huile sur le feu en essayant d'aider encore plus le maréchal Haftar parce qu'il croit en la solution militaire. Il pense sincèrement...
Quand vous dites que l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis soutiennent le maréchal Haftar, c'est un soutien quoi? Financier, militaire, stratégique, diplomatique?
Tout ça, d'accord. Et idéologique. Par exemple, il est très difficile de critiquer les Émirats unis dans les institutions occidentales parce qu'ils ont cet État un programme extrêmement sophistiqué, élégant, d'influence au niveau de l'académie, au niveau des groupes de réflexion. Donc aujourd'hui, quand on est soutenu par les Émirats unis, on reçoit de l'argent, on reçoit de l'aide militaire. On reçoit aussi un effort de conviction parce que les Émirats unis ont invité, par exemple, la Russie à venir aider le maréchal Haftar. Elle convainc la présidence Macron avec une efficacité quand même assez admirable qu'il faut rester du côté du maréchal Haftar. Donc quand on a les Émirats unis de son côté, on bénéficie de tout cela.
Effectivement. En tout cas, officiellement, tout le monde souhaite un cessez-le-feu, mais on voit bien que la communauté internationale est divisée. Il y a ceux qui soutiennent le maréchal Haftar, ceux qui soutiennent le gouvernement reconnu officiellement par l'ONU. Merci beaucoup infiniment, Jalal Archaoui, d'avoir été avec nous, spécialiste de la Libye. D'autres questions à la rédaction demain matin. D'ici là, évidemment, vous continuez à nous appeler. On a besoin de connaître vos questions avant de débuter l'émission pour contacter nos experts, nos envoyés spéciaux, 33 9 693 693 70. Dans 10 minutes, juste après le journal, on parlera d'un sujet bien plus léger. On parlera football après le tirage au sort de la CAN 2019. Vos pronostics au standard et dès maintenant.
Retrouvez Appel sur l'actualité après le journal avec Orange Money, leader du transfert d'argent.